Ladies and gentlemen, could I ask you all to take a seat, please? We'd really love to start. We have a packed program for you this evening. There's lots of seats here and there. Okay. Well, bonsoir, good evening, everyone. I'm Rosalie Ducœur, and in my capacity as co-chair with Véronique Bélanger of our Formation Continue series that we have entitled Think Ahead, Pensez d'Avance, it gives me great pleasure to welcome you, or in the case of many of you, welcome you back tonight for another series of lectures. J'ai le grand plaisir de vous accueillir à la Faculté de droit de l'Université McGill ce soir pour notre quatrième session de formation continue de cette année, où nous allons aborder le sujet de droit d'auteur, un sujet qui attire notre attention tenant compte du fait que la Cour suprême du Canada a récemment rendu plusieurs décisions concernant ce sujet. Ce soir, nous avons trois conférenciers, les professeurs David Lametti et Pierre-Emmanuel Moïse, ainsi qu'un de nos étudiants de doctorat, M. Francis Lord. I should mention that this lecture on copyright is very timely, as just last week, it was Intellectual Property Week at the faculty, organized by our Center for Intellectual Property Policy, or CIP, as we know it. And as you will hear, all three speakers are very involved in this very vibrant center within our faculty. The Intellectual Property Week included a whole series of activities that ranged from giving our students the opportunity to meet with practitioners in the field to stimulating lectures and presentations on some of the subjects you will hear about tonight. I know you are in for a stimulating and interesting evening. Before we begin with the formal part of our program, as usual, I have a few housekeeping announcements. Please switch off anything that buzzes or rings. We will, as usual, have one break this evening. It will be after the first two speakers, so it'll be closer to about 7:30 or 7:35. During the break, you may get some snacks from the table manned by our students in the atrium. The food is offered for a donation. And note that tonight the food is being supplied by the McGill Business Law Association. Now, as its name implies, this student association provides a forum for McGill law students and law firms to get acquainted, particularly through hosting conferences at Montreal's leading law firms and at the faculty, where students can learn about topical business law issues and the practice of corporate law from experts in the field. However, what its name doesn't automatically imply, but something you should know, is that this group also gives back to the community. And through MBLA Cares, they have already held several successful fundraisers, with proceeds benefiting the Montreal Children's Hospital, Dans la Rue, and the Alexandra Dodger Fund. In that vein, all proceeds from the funds raised tonight will go to the Siegel Cancer Center of the Jewish General Hospital, so all the more reason to give generously in exchange for the food and drink they have procured for you tonight. As in the past, you will get an email shortly after tonight's formation with your certificat d'attestation. If you attended last month, you will get both your attestation certificates at the same time shortly after this evening. Of course, for you to get your certificate, you have to have registered with one of the students in our atrium. If for some reason you did not do that on your way in tonight, please make sure to do that during the break. Okay, that's it for boring announcements. Now for the fun. Once again, we will be beginning our evening with some words from a distinguished member of our legal community who we have asked to serve as our président d'honneur. And it gives me the greatest of pleasure to introduce to you our président d'honneur for this evening, Maître Claude Brunet. Diplômé de l'Université de Sherbrooke, où il a obtenu son baccalauréat en art, et de l'Université d'Ottawa, où il a fait ses études en droit, Maître Brunet est actuellement associé principal du cabinet Norton Rose, responsable de l'équipe canadienne droit d'auteur et droit de divertissement. Il pratique le droit de la propriété intellectuelle et des communications et possède une expertise particulière en matière de droit d'auteur, de droit relatif au secteur culturel et de l'édition, de télécommunications et de demandes auprès de la Commission de droit d'auteur. Maître Brunet started his career as a legal advisor to the Composers, Authors, and Publishers Association of Canada, now SOCAN. He has served as Registrar of Copyrights and International Affairs Advisor to Consumer and Corporate Affairs Canada. He has acted as legal advisor to the House of Commons Subcommittee on Copyright, and moreover, he is the author of proposals that became the basis of the 1988 and 1993 amendments to the Copyright Act. A world-renowned expert in copyright, he has been a member of several Canadian delegations to UNESCO and the World Intellectual Property Organization. He has also been recognized with the Médaille Beaumarchais for his contribution to the advancement of copyright. I think by now you see why we chose Maître Brunet to be our président d'honneur tonight. Maître Brunet, merci infiniment d'être parmi nous ce soir, et je vous passe la parole. Merci.
Merci infiniment de cette présentation. Merci surtout de m'avoir invité. J'espère que vous ne le regretterez pas parce que j'ai l'intention de faire quelques petits commentaires éditoriaux. So, welcome everybody to this copyright installment in McGill's Think Ahead Continuing Legal Education Series. As usual, as you know, tonight's program is going to last 3 hours, and the last thing anyone needs is for me to prolong the exercise. But this is not to say that I am not going to use the platform that I am being offered to once again speak my mind about copyright in this country. There was a time, ladies and gentlemen, where the world was looking up to Canada in matters of copyright. For example, Canada was the first country in the world to establish a regulatory body to examine the royalty rates proposed by Performing Rights Society. We did that in 1931, and the world followed suit. In the 1980s and the 1990s, Canada created a legal environment that brought copyright owners to relinquish their control over their works in exchange for a remuneration supervised by the Copyright Board. In doing this, Canada positioned itself very well to enter into the Internet age. Meanwhile, in the United States, the Digital Millennium Copyright Act established a system whereby copyright owners would control access to their works by sending a notice to Internet service providers, who then have to take down the copyright material. According to Google's transparency report, last month there were over 14 million requests for takedowns of copyright material. That's more than four million requests a week. I say there is something wrong with the American system. Yet, it seems to me that we Canadians no longer believe in our capability of developing creative solutions to the challenges of maintaining a copyright system in the Internet age. It seems we cannot hurry up enough to copy and copy lamely the American Act. In great part, this is because we have drunk the Google Kool-Aid. Google is not just a phenomenal search engine. Google is the world's most foremost prominent of free culture. Not just free as in available, disponible, but free as in free lunch, gratuit. Selon ses propres déclarations, l'avocat en chef de Google, William Petri, passe 98% de son temps à élaborer et à expliquer des politiques en droit d'auteur. Ça, c'est à peu près comme de confier l'environnement du golfe du Mexique à British Petroleum. Et il réussit manifestement à faire des petits au Canada. De l'Université de Toronto à Osgoode Hall, à l'Université d'Ottawa, nous ne sommes plus tellement loin au Canada de la pensée unique en matière de droit d'auteur. C'est pourquoi je trouve l'exercice de ce soir si important. La série Think Ahead de McGill s'est donnée pour mission d'aborder des thèmes qui sont au cœur des grandes questions de droit contemporain. La vitalité économique de nos sociétés d'information dépend en grande partie du droit d'auteur. Par ailleurs, la modernité même de nos sociétés dépend des outils de reproduction et de communication que développent les Google et autres copyright bashers. On ne peut pas y échapper. Nous avons besoin, et de plus en plus, à la fois du droit d'auteur et des technologies. Pour espérer en arriver un jour à construire un pont solide entre ces deux pôles, nous ne pouvons pas nous limiter à un modèle unique. Toutes les expériences du monde peuvent être éclairantes. Et c'est ici, me semble-t-il, que McGill peut, plus que toute autre université, faire une contribution exceptionnelle. Par son appartenance réelle aux deux grandes cultures françaises et anglo-américaines, McGill, mieux que toute autre université, peut discerner et aider à préserver ce qu'il y a de meilleur dans les systèmes de copyright et de droit d'auteur. Au moment où le monde entier a besoin de solutions innovantes en droit d'auteur, McGill est la mieux placée pour analyser correctement les forces et les faiblesses des deux grands systèmes de protection des œuvres de l'esprit. Il faut donc se réjouir profondément que la série Think Ahead ait fait une place aux questions très importantes de droit d'auteur. Et pour ma part, je me prends à souhaiter que ce ne soit que le début d'une contribution plus originale, plus productive et moins servile que celle qui, malheureusement, a cours au Canada anglais depuis le début de ce siècle. Merci de m'avoir donné la parole.
Merci beaucoup, Maître Brunet, pour ces mots qui, d'entrée de jeu, appellent à la réflexion, voire à l'action. Et c'est un plaisir maintenant pour moi de vous présenter notre premier conférencier de ce soir, le professeur Lametti, qui, comme je tiens à le souligner, comme les conférenciers de la dernière séance et comme le professeur Moïse, que nous aurons le plaisir d'entendre tout à l'heure, ont la gentillesse de participer pour la deuxième fois à cette série de formations continues. Alors, je tiens à dire notre appréciation à nos conférenciers. David Lametti est professeur agrégé à la Faculté de droit de l'Université McGill. Il est membre de l'Institut de droit comparé et du Centre des politiques en propriété intellectuelle, le CIP. Il enseigne et publie dans le domaine du droit des biens, de la propriété intellectuelle et de la théorie du droit. De 2008 à 2011, il a occupé le poste de vice-doyen à l'enseignement à la Faculté. Le professeur Lametti est d'ailleurs un diplômé de la Faculté. Il a obtenu ses diplômes de BCL et LLB en 1989. Il détient également une maîtrise en droit de Yale et un doctorat en droit de l'Université d'Oxford. Il a été clerc auprès du juge Corey de la Cour suprême. En lien avec la présentation de ce soir, je souligne également que le professeur Lametti a organisé et donné la semaine dernière, dans le cadre de la semaine sur la propriété intellectuelle dont vous parlait ma collègue, un séminaire interdisciplinaire intensif intitulé « Excess Copyright, the Supreme Court of Canada Pentology and Bill C-11 ». On constate donc qu'il est fin prêt pour nous adresser la parole ce soir sur ces questions de droit d'auteur. So please join me in welcoming Professor Lametti.
That's okay. Merci Véronique pour cette introduction et bienvenue à tout le monde. Je vais vous adresser en anglais. C'est la langue dans laquelle j'ai préparé mon discours pour ce soir. And as you're going to see, in a subject such as copyright, there is ample room for disagreement in the sense that certainly in the past, Canada has perhaps been I would say guilty of having been too focused on copyright's rights and not focused enough on copyright's limits, particularly in the service of creation. And we know that from the internet, it is one of the greatest sources of innovation that we have in our society today. And it would be a tragedy, I think, if we allowed an excessive copyright regime to stifle the kinds of copying that have always been present in copyright regime properly understood and in the creative processes of artists in a variety of different places. And that's the basis upon which we would like to speak to you this evening. You'll see there's disagreement even amongst our colleagues. I would like to take, the ultimate goal is to speak to you about five Supreme Court of Canada decisions that were rendered in July of 2012. But in order to take you forward, we have to take you back. So my part of the exercise will be to focus on two background cases in particular, as well as some copyright context, and one case briefly, the SOCAN against Bell case. Francis Lord will talk to you about collective societies and about the case of access copyright versus Alberta Education, in which the Supreme Court of Canada recognized the importance of education as the primary engine of creativity, as opposed, I think, to a more narrow view of copyright. And the remaining three cases will be dealt with by Professor Pierre-Emmanuel Moïse. So let me begin with a quick review of what you need to remember about Canadian copyright law, and unfortunately, which is sometimes forgotten. First of all, copyright is statutory. Yes, it's true that there is a tradition of droit moral in some places in the world that has influenced some documents, such as the Berne Convention. But the Canadian statute shares its history with the Statute of Anne in the UK, and the rights one gets are in the statute, as interpreted in the cases and in the doctrine. So that means Sections 3 and 5 of the Copyright Act, the basic rights to produce and reproduce, as well as the right against someone authorizing the infringement of one's work, as well as neighboring rights in Sections 15, 18, and 21, sound recordings, performances, and telecommunications rights. We have added, and Canada was indeed the first country in 1931 to add formally moral rights to its statute, whose origins were in the continental tradition, and in particular a right to the integrity of their work and the right to be associated with the work in whatever manner one chooses. And our term of copyright is the life of the author plus 50 years. The takeaway from this is that copyright is a right to produce and reproduce one's own work for economic value, and the right not to have somebody else authorize the reproduction of that work. And the point is, and this is something the Supreme Court of Canada will remind us about in one of the cases of which I will speak, is about making copies for economic value. It's not about prohibiting all kinds of copying. It is an error in law, and I think quite frankly, an error in terms of understanding copyright, to think that a copyright holder has the right to prohibit all kinds of copying. Copying is an integral part of how we learn. It's an integral part of how children learn. We don't call Van Gogh a copyist or plagiarist or copyright violator for having copied 21 works of Millet virtually identically. He in his lectures, in his notes to his brother Theo, said he was translating Millet for another audience. These works were Van Gogh's. They were new Van Gogh's, and we certainly wouldn't condemn him or Roy Lichtenstein or many others in the grand history of art or literature or whatever for having legitimately copied parts and themes of other works. What does all this mean? Starting point is in the statute. A copyright is not a right in gross. We interpret the Copyright Act through the jurisprudence assisted by legal writing. Now to the court cases. I'm taking you back to two Supreme Court of Canada cases, which have helped, I think, us to properly re-understand copyright. And indeed, in my travels around the world, speaking at conferences and listening to other people, the Supreme Court of Canada has earned, particularly after this summer, but with these cases, has earned the immense respect of Commonwealth copyright nations around the world and is seen as a leader, a court that leads and understands the concept of copyright. Let me also tell you that there are limitations and exceptions to copyright, so limits on what copyright owners have that are more explicit than what I've already said. Sections 29, then 29.1 and 29.2 have enshrined research and private study, news reporting, and criticism and review as legitimate exceptions to the rights that copyright holders have. Bill C-11, which came into force this past fall, adds education as well as parody and satire to that enumerated list of exceptions, as well as adds many specific particular exceptions following Section 29.2 in the Copyright Act. Very meticulous and pointed suggestions. But the point in all of this with the rubric of exceptions and limitations is that there is a balance in copyright between what a copyright holder has and what a user can do with those kinds of works. The Supreme Court of Canada really articulated this clearly in a case called Théberge in 2002. That case had its origins in Quebec with New Brunswick-born Quebec artist Claude Théberge. How many of you have a Théberge painting or a Théberge print in your office? I mean, it's quite common. They tend to look like this. They tend to have a lot of hats, a lot of scarves, a lot of umbrellas. I know that my doctor's office has a number of them there. This is the painting Celebration by Claude Théberge, which was the subject matter of the Théberge case. Théberge was well known in Quebec. He was educated artistically in Quebec, spent time in France and in Germany, and then came back later in his career until he died in 2008. Claude Théberge entered into an agreement with a number of art galleries here in Quebec to produce 10,000 copies of that print, as well as a maximum of 100,000 smaller postcards of that print. Théberge wanted that work to be reproduced only on paper. Right? He liked to work on paper. He did not want it to be reproduced on canvas. What the art gallery subsequently did, and you can walk into any art gallery here in Montreal or in Quebec City or any other major center and have this done, you can take a paper poster, purchase a paper poster, have the ink pulled off it, and have it replaced on canvas, leaving a blank page where on the paper and having a new print on canvas. Now, of course, the galleries can create a windfall doing this. They can charge more for canvas than they can on paper. And Théberge found out about this and took issue with it. So a number of questions here, both intellectual property questions and property questions, because, of course, there's also a physical manifestation of the copy that is now on canvas and no longer on paper. There are two judgments in the case. The case is interesting for a number of different reasons, pedagogically as well as procedurally. The majority decision was written by Justice Ian Binney, writing for the four common law trained judges on the court. The dissent was Justice Charles Gontier, and he took with him the other two Quebec civil trained judges on the case. Each decision is interesting in its own right, and in a certain sense, each decision is true to its moral and legal foundations. Now, what do I mean by that? Binney looks at the statute, begins with the position that one needs to look at the statute and has rights that are only enumerated in the statute. He looks at the cases to determine the meaning of the word reproduction, because the case turns on the meaning of the words production and reproduction. Were these copies on canvas, in fact, reproductions of Teberge's work? And reproduction in the copyright sense, in the common law copyright tradition, has a very technical meaning, as articulated in the precedent cases through the UK and then in Canada, that in order to have reproduction, one needs to have new copies. At the end of the day, there weren't any new copies of this particular work. Furthermore, Binney distinguished the ownership of the intellectual property and the ownership of the copy of the painting by saying that once an owner, once a gallery, buys the print, it's the owner and can alter the physicality of the print as it wishes. So in this particular case, there was no reproduction in the sense of the Copyright Act as interpreted through the statute and through the cases. Justice Gontier's decision uses or understands the word reproduction in a more lay meaning, indeed uses lay dictionaries at the outset of the case in order to understand the meaning of the word reproduction. And here the transfer to canvas in Gontier's view constitutes reproduction and therefore a violation or infringement under the Copyright Act. Now, it's interesting that the 4-3 divide runs along common law, civil law lines in terms of training. The question really is how one, I'm going to skip a slide and come back, how one fills in the interpretive gaps. Right? If you take Binney's approach, which I would put to you is a true common law approach, one looks at the statute, one's rights are defined by the statute, and any gaps that appear between sections in the statute mean that one doesn't have those rights. Right? It's statutory in origin. If it's not in the statute, you don't have it. So very much a case in which the interpretive gaps are not filled in favor of the author. Charles Gontier's decision is, I would put you, a prototypical droit d'auteur decision, in which the starting point of the exercise are the natural rights of the author, and these natural rights are interpreted widely, the statute being an example of the kinds of rights an author might have. But here, interpretive gaps, as they exist, for example, the meaning of the word reproduction, are filled in favor of the author. So there's an interpretive bias, if you will, in favor of giving the author more rights. I put to my students that in terms of their own internal logic, both cases are true to the traditions that they come from. Unfortunately, for proponents of Gontier, the tradition that we have, while it is supplemented to some extent by moral rights in Canada, is part of the common law tradition. So in terms of law, I would put to you that Binney was right in terms of getting the actual law right. Was there a moral rights violation here? Certainly it's within the province of an artist to determine his or her medium and to try to enforce that right. So I would say yes, there definitely was a moral rights violation here, but it wasn't argued by Teberge. The case was not brought forward in moral rights. I think he could have won it on moral rights, right of integrity of the work. It was brought forth on economic rights. And here, he had been paid in the contract. You could make the argument that his rights were exhausted with first sale, and you could, as Vinnie did, make the argument that once one buys a print, one can do whatever one wants with it. And certainly Binney is wary of letting moral rights creep into the realm of economic rights in such matters. It's also interesting that, again, I speculate on this with my students, but looking at the structure of the judgment, it was that close. I suspect the judge changed, I will say this deliberately, her mind on the case. because the first set of reasons that was drafted were clearly Gontier's. Why? Well, his has the resume of the facts. His has the previous court history in this particular case. And it's usually the case when Supreme Court of Canada judgments are circulated amongst the judges. The first judge who writes takes on that part of the responsibility. The other judges will then write a decision in consequence. So it's quite likely that when Binney's opposing set of reasons, and they very much are reasons that respond to Gontier, as opposed to Gontier's reasons responding to Binney, it's clear that somebody changed their mind and the decision went 4-3, started off 4-3 perhaps the other way and went 4-3 finally in favor of Binney's position. According to Binney, and this is the takeaway from the case for the purposes of moving forward, copyright's a question of balance. In my view, with respect to this expansive reading of Section 3.1 proposed by Théberge, economic rights tilts the balance too far in favor of the copyright holder and insufficiently recognizes the proprietary rights of the appellants in the physical posters which they purchased. Adoption of this expanded interpretation would introduce the civilist conception of droit de destination into our law without any basis in the Copyright Act itself and blur the distinction between economic and moral rights imposed by Parliament. That, to some extent, settles this case, but with respect to copyright more widely, Binney's decision was very much balanced as between the rights of the copyright holder and what are now being classified as the rights of the user. Copyright is usually presented as a balance between promoting the public interest in the encouragement and dissemination of works of the arts and intellect and obtaining a just reward for the creator, or more accurately, to prevent someone other than the creator from appropriating whatever benefits may be generated. The proper balance amongst these and other public policy objectives lies not only in recognizing the creator's rights, but in giving due weight to their limited nature. And this is now the idea that copyright is a balance between the rights of the copyright holder and other interests, user interests that may exist in a work, the limited nature of copyright, are almost now part of the standard quotes in subsequent copyright decisions throughout Canada. So, according to the Supreme Court of Canada, balance is part of the animating discourse of copyright. Now, this was affirmed by the Supreme Court of Canada in 2004 in a case called CCH Canadian against the Law Society of Upper Canada. You'll recognize the Law Society of Upper Canada buildings. The grainy photographs are from Wikipedia. This is the Law Society's Great Library. It's the law library of the bar in Ontario. It's a lovely place to work if you have the opportunity. Show you a few pictures to put a smile on your face. The nature of the case, and the case was a set case that was a test case, it was set up, dreamed up, in the law offices of the old Borden and Elliott firm, now part of Borden and Ladner Gervais, which used to be right across the street from the Law Society. And it was set up regarding legal materials. CCH Canadian is a large Canadian law publisher, and they produce things like legal monographs, like enhanced case reports with headnotes cross-referencing, case comments, subject matter reporters in various areas of the law that include, again, some editing comments and that sort of thing. So it was partly about how much lawyers in Ontario could copy from those kinds of works and how they copied, as well as about the legal services that the Law Society of Upper Canada was supplying to its resident lawyers and residents in Ontario. And to this effect, they had two things to note. One is they had freestanding photocopiers in the Law Society. They had the usual copyright notice above them. But the question for copyright purposes was, does this constitute authorizing infringement on the part of the Law Society of Upper Canada? And secondly, they had a photocopying service for lawyers in far-flung places. So if you were a lawyer in Kapuskasing, Ontario, you could call the Law Society and say, I need 15 pages of this work, or I need a copy of Chapter 5 of this monograph by Arthur Martin. And they would have a librarian copy it And then they would send it by fax or by mail, depending on the length, and they would have cost recovery for some of those services, but in part provide those services as well. So this is our stock in trade, right? I mean, we're lawyers. We need to do legal research. The question is, how much copying can we legitimately do under the rubric of fair dealing, those sections I put up, Section 29 in particular, of the Copyright Act. The Supreme Court took this idea of balance and I think for the first time said that copyright wasn't simply a limitation or an exception to an author's right, as the structure of the Copyright Act seems to say, but is a veritable user right. So properly understood, copying doesn't cover the copyright right, the right against copying in the Copyright Act, doesn't cover every conceivable kind of copy that is made. Certain kinds of copies are not only legitimate, but are also the rights of users to make in order to foster knowledge, creativity, etc. And in so doing, they articulated a test at paragraph 53 of that case in which one had to look at the purpose of the copying. Was it for research and private study, one of the enumerated heads of the Copyright Act, as well as a more particular understanding of the purpose of the copying in that particular case. One had to look at the character of the copying, what was copied, what kinds of works, tied again back to the purpose in the first instance, the amount of copying, literally the quantity of copying that was done, whether there were alternatives to the copying that could be done, the nature of the copying itself, and the impact that the copying had on the work, particularly the economic impact that such copying might have on a particular work. This was a very open-ended test that approached, to some extent, the American idea of fair use, in which Section 107 of the American Copyright Act has four criteria that cover roughly the same ground here, with some differences, but they're not important for our purposes this evening. But the idea here is that it's a more open-ended test as opposed to the more, restrictive tradition that one would have found in the English Copyright Act or in the Copyright Act in Canada prior to this case. So the decision was a 9-0 decision written by the Chief Justice of Canada, pretty strongly worded, pretty strongly written, with, I think, a proper understanding that if we shut down, particularly in the technological age now that this has become possible, if we shut down every kind of copying that can be done, we will shut down knowledge, we will shut down creativity, we will impede lawyers from doing their jobs, we will impede universities from doing their jobs, we will impede students from learning, we will impede creators from creating. According to the court, the factors enunciated may be more or less relevant to assessing the fairness of the dealing, depending on the factual context of the allegedly infringing dealing. In some contexts, there may be factors other than those listed here that may help a court decide whether the dealing was fair. On the authorizing infringement point, the court, with respect, first of all, to the photocopiers, the second bullet, the court explicitly chose not to follow an Australian case, which did find a university liable for providing photocopiers and therefore authorizing infringement under the Anglo-Australian tradition or the Anglo-Canadian tradition, instead finding that users who use the photocopiers in service of their fair dealing rights did so on their own and would be sufficient to post the proper kind of warning on the photocopiers. Moreover, and this is interesting in the university context or the educational context generally, something that will be picked up in the Access Copyright case, the court found no liability on the part of the Law Society for its photocopying service, found that if there was a plan in place that relied on the fair dealing for the purposes of research and private study for individual users, that the institution could base itself on that right of the individual users for whom the service was provided. Right? So very, very groundbreaking decision. What was the impact in Canada? Well, we have a rethinking of the place of fair dealing in the Canadian Copyright Act, a test that becomes more similar to the U.S. fair use test. So it got a great deal of treatment in the academic world, and I would say that with the exception of Quebec, the vast majority of that treatment was very positive. In practice, right holders ignored it. In practice, copyright collectors ignored it. Particularly in Quebec. New cases that came up this summer, I think, make it clear that something will happen. Universities, school boards, other educational institutions across Canada are now opting out in mass numbers, thanks to the leadership of our former dean and president of the University of British Columbia, Stephen Toop, who rightly saw that perhaps access copyright in English Canada was charging universities for rights they already had under fair dealing rights in the Act. So thanks to Stephen Toop's leadership, a number, and his university was the first major university to pull out of the access copyright agreement or to not renew it, a number of institutions, and in particular school boards in and across English-speaking Canada are beginning to pull out. And I think the word is beginning to get out in Quebec, too, that perhaps we need to think about education as a priority. And trying to find ways to make sure that students are able to access the kinds of materials that they need. So fair dealing in Canada now is a mix of Section 29, Copyright Act and following, as well as the CCH Canadian case, as well as the Supreme Court of Canada pentology of cases that came out. The conception of user rights has, to some extent, absorb the idea of limits and exceptions to copyright, i.e. what the copyright owner does not have, but also encompasses to some extent what the user does have, certain rights to use for the promotion of education and other purposes. Bill C-11, previously C-32, adds formally education and parody to the mix, and I think this too, parody and satire, this too adds to the robustness of Section 29. And the manner in which it was interpreted in CCH Canadian, allows for format and time shifting in the current digital climate. And quite interestingly, and this has gotten a great deal of positive play around the world, there's now a provision that protects users producing non-commercial mashups. So some of you are familiar with mashups in which you take in a digital format various kinds of works to produce a new work. Those kinds of works are now protected under the Canadian Copyright Act. The Act also allows for digital locks to be placed on copyrighted works along the lines of the Digital Millennium Copyright Act, and I agree here that this is something that we need to be wary of. Although one would hope that various experiences with digital locks in the digital world already, particularly in trying to lock up music, have backfired against the users of those digital locks. So hopefully other business models will be found in which authors might be remunerated, musicians might be remunerated without having recourse to these kinds of quite frankly, draconian measures. So we have the brave new and balanced world of copyright. Five cases handed down by the Supreme Court in July 2012. I'll speak briefly about one of them, and then a brief note on parody, and I'll turn the floor over to my colleagues. The one case that I will talk about was perhaps the most straightforward. It was a unanimous decision by the court. The question was whether if you go to a site like Apple's iTunes and you want to buy for your adolescent daughters, or they want to buy on your own with your credit card, the latest song from One Direction, which is the boy band of choice these days. They're playing in Montreal this summer, as most parents of girls my age know, and our pocketbooks have taken the subsequent hit. One goes on, and one can actually, one can actually click on the song, and one will get a very short clip of the song. In order to hear it. for reasons unbeknownst to most people, SoCan tried to get a tariff on that 30-second playing of the clip, which seems to go against the idea of selling songs for music. And the court found this. The court found that consumers could engage in research for the purposes of purchase, that the sound clips were not of a sufficient length or quality, that they would be any more than a dip into to see if one liked the music. And I think people who have invested in this kind of business model were quite happy with the decision. It's really one of the only ways that this kind of business model can work. In the same way that one could have gone in the past into a store and listened to a CD to some extent before purchasing it. Certainly, there are excesses in copying in the internet context, in the digital generation, but I think most people would argue this is not one of them, and the Supreme Court so held, as I said, in unanimous terms. So one decision down. These little streams for the purposes of research and private study, consumer research and private study, have been held to be legitimate users' rights and therefore not subject to a tariff on part of the Copyright Board. The business model here is buying the song, not in sampling the song. Just in terms of the test, the court, what one now has to do with respect to CCH and fair dealing, and this probably means that it falls into line with the three-step test in Byrne as well, is that one has to first fall into one of those six categories: research and private study, criticism and review, news reporting, now education, parody and satire. One first has to fall into one of those enumerated heads, and then one goes through the subsequent steps of CCH to decide whether this was fair. This was done pretty quickly and efficiently in this particular case. The court had to take a little more time in the Access copyright case, which you will see, which you will hear about shortly. Okay. A quick word on parody, perhaps to leave you smiling, but also because Bill C-11 included parody for the first time in the Act. There's always been a question of whether parodied works are, in fact, legitimate users' rights under the Copyright Act. Parody by nature copies, right? Parody by nature copies. I like to say that it inverts the traditional idea expression dichotomy in copyright, in the sense that one could always copy ideas in copyright, be inspired by other ideas, etc. What one couldn't do was copy the fixed expression of a work for economic purposes, right? To sell the work de novo. What parody does is it flips it around, because it copies a work in order perhaps to express a different idea. And it's part of the comedic tradition here in Quebec. It's part of the humor tradition that English Canada has inherited from the UK, the Monty Python tradition, Saturday Night Live, Second City, and all of these things. So both in the English and French language cultures in Canada, there's a strong tradition of parody. Question is, how do you cover it? Is it fair dealing? Is it a new work? Some European jurisdictions classify parody as a new work, a new creative work, and therefore not a copyright infringement. We're still not sure here, although now with parody and satire included in Bill C-11, there's a more robust, there's certainly a more robust basis for calling it as a user right of fair dealing. And ironically, that makes for an extended discussion of parody in a practical sense. It was said that before, perhaps target parody, according to Professor Michael Spence, and incorporated in a couple of cases, both in Canada and in the United States, was possible under the old Section 29, in which one uses parody to make fun of that work itself. Okay. Where most academic writers would not go was the idea of weapon parody, or what I call instrumental parody, in which one uses a work to get at something else. The kind of thing one would see on the Bye Bye or whatever, a parody of some TV show that's making fun of a politician, right? So it's not the show itself that's being parodied, but the politician that's being parodied. Now perhaps the door is open for weapon parody. And here the most interesting discussion is a Quebec case, the Avante Ciné case. You'll recognize Mounier and Thériault from La Petite Vie. There was, unfortunately for the two of them, a porno film that was made. I won't translate the title for Anglophones in the audience. I don't need to. But there is an extended discussion of parody in this case. And I would put it to you that this will be the starting point, hopefully across Canada, for a new reflection on parody now that parody is part of the Copyright Act. It was pretty much forgotten, in particular in English Canada, in part because the decision is partly written in French, but with a fair number of quotes from English language sources. It could very well move us forward because there is a thoughtful discussion that was had in that particular case. So we'll see what happens. Balanced future for parody. Of course, what were you thinking with that word beginning with P? We'll see where it goes. Thank you very much.
Thank you so much, David. I have to say, personally, I'm delighted with the results of the SOCAN decision because, like all of us, I myself have had occasion to test a bunch of songs and before downloading them. In fact, just yesterday, I was attempting to download a karaoke version of a song that one of our colleagues and I will be singing as a parody at McGill's Skit Night. And so I tested a good 10 karaoke versions of that song before I did pay 99 cents legitimately to download the version. But thank you very much for setting the stage. And now, ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to introduce to you our next speaker. And the pleasure derives from two important facts about this speaker. The first is that in his own right, as you will soon see, he's just terrific. The second, however, is that he is one of our doctoral students here in the faculty. And in my current capacity as Associate Dean Graduate Studies, nothing gives me more pleasure than to show off our fantastic doctoral students, particularly the ones I admitted. So let me introduce Francis Lord to you. Maître Lord has an MSc in Science and Technology Policy and Management that he obtained with distinction from Edinburgh University in Scotland. He then went on to obtain his law degree and his master's degree in law from Université Laval. We were extremely lucky to grab him as one of our doctoral students, where, in addition to being a doctoral candidate at McGill's Faculty of Law, he is also doing his doctoral studies as part of a co-tutelle with the faculty Jean Monnet at Université Paris-Sud 11. Before beginning his graduate studies, Maître Lord clerked for Justice Pelletier of the Quebec Court of Appeal and has worked for several years in the field of the regulation of new technology, notably as a consultant with Quebec's Commission de l'éthique, de la science et de la technologie, which led him to his current interests in intellectual property and innovation. The provisional title of his doctoral thesis, which is under the supervision of Professor Moise, who you will hear from after the break, is Academic Aspirations on the Theme of Property, a Sociolegal Analysis of Copyright and Patent Law, Learning and Virtue. Francis, merci d'avoir accepté de participer ce soir. La parole est à vous.
Merci beaucoup pour la présentation. One thing, I'm not a lawyer, so thank you for calling me maître, but not. I did the articling, I did a bar school, and then I signed, and there was a picture with Le Bâtonnier, and then I left, but I hope we can still be friends. So as Professor Lemedy said, I will focus my talks on collective societies and the role of the Copyright Board of Canada before moving on to the case Alberta Education versus Access Copyright And I'm going to discuss a bit of what happened after the aftermath, what we can expect from both this case and the new legislation C11. Donc, qu'est-ce qu'une société de gestion? L'article 2 de la loi sur le droit d'auteur nous dit qu'une société de gestion est donc une société, une association ou une personne morale qui, dont le business est l'administration collective des droits d'auteur. Elle peut le faire avec une ou deux activités, donc soit à travers une licence qui va couvrir l'ensemble de son répertoire, ou un plan d'une organisation pour rémunérer les auteurs, plutôt les détenteurs des droits d'auteur qu'elle représente. The original development of collective societies come from France. In 1777, there was a bunch of playwrights and writers that wanted to be paid by the theatrical companies that were glad to give them a lot of visibility, but a bit less generous on the money they would receive. So they convened on a meeting to talk about how can make sure that they get more revenues for these representations. And eventually, the conversation turned to a collective right protection. So it was both a measure of solidarity and also a way to gain collective bargaining power. And that meeting led to the first collective society, which was la Société des Auteurs et des Compositeurs Dramatiques. To understand the added value of collective societies, what they bring to the table in our system of copyright, you have to understand fragmentation of rights in copyright law. Basically, like in property, you can think of copyright law as giving a bundle of rights. So you have the production right, publication right, performance right, and these rights can be held by different people and they can be held on different objects. So imagine that you're opening up a radio station. Law is not that good these days, so you're going to do music. So in order to do that, you need to copy songs on your computer, and you need to broadcast them. So that means that you have two rights to deal with, the reproduction right on your computer and the communication right to broadcast music. And these rights will apply on a musical work. They will apply on the sound recording, and they will apply to the performance that is in the sound recording. And these rights will be owned by different people in Canada and elsewhere in the world. And the funny thing is that you don't even know if you're going to actually play these songs. Because some of them might be in the band, an artist might die, and then you might want to make plans. So for example, when Michael Jackson died, there was a lot of music, a lot of his songs that appear. So you need to play thousands of songs, and you don't know which one you're going to play. So obviously, there's huge transaction costs into going to all of these persons individually. Can I reproduce this song? Can I broadcast it? So instead, what you're going to do is that you're going to go to just one counter, which is a collective society, and that collective society will give you a broad license to do all these activities in the name of the people it represents. Now, Canadian Parliament quickly picked up on this and decided that collective societies for certain areas of copyright law would be the main compensation scheme that we would have for certain activities. And enters the Copyright Board of Canada. Because these collective societies, in many cases, act as monopolies. Access copyright, which I'm going to talk later, is one that deals with reprographical work, copy. Donc, access copyright sont le monopole que cette société détient et sur le territoire du Canada. Tout le Canada, sauf le Québec, qui est détenu par CopyBet. Donc, il y a une situation de monopole, il y a une situation où les consommateurs peuvent se faire refiler un prix qui ne reflète pas celui du marché. Donc, en 1936, on a créé le tribunal d'appel du droit d'auteur qui, à l'époque, ne se préoccupait que des sociétés d'une société qui était pour la performance, les représentations théâtrales. Et éventuellement, petit à petit, on va étendre au fur et à mesure que le rôle des sociétés de gestion s'étend, la juridiction de la Commission des droits d'auteur du Canada va également s'étendre. Donc, en 1989, on va formellement créer cette commission-là pour réguler, pour contrôler la relation des sociétés collectives. Puis en 97, on va étendre cette juridiction-là quand on va introduire des régimes plus formellement pour la gestion collective des droits d'auteur. Donc, il s'agit d'un tribunal administratif indépendant. Il y a 5 membres qui siègent sur la commission des droits d'auteur, mais elle dispose aussi d'un personnel de soutien qui peut faire ses propres recherches. Et la commission des droits d'auteur va être très inclusive pour ce qui est de faire affaire avec des experts externes, pour faire affaire avec des intervenants qui, selon elle, peut apporter des choses intéressantes au débat. Elle a des règles de procédure très flexibles, donc la façon dont on approche la commission, on va lui déposer un projet de tarif qui va être publié à la Gazette du Canada, qui est le livre que vous lisez à tous les soirs, juste pour être sûr que vous êtes à jour. 60 jours après la publication, on a un délai de 60 jours pour des opposants de faire valoir pourquoi ils devraient s'opposer au tarif, pourquoi le tarif ne représente pas le prix du marché. Donc, je dirais que la commission du droit d'auteur est un régulateur dont les fonctions de régulation fonctionnent à travers son rôle of educator. So they deal with conflicts, but they intervene in these conflicts in ways that go well beyond what the parties request in order to influence the market in a way that will make sure that they balance the market powers between users and right holders. And the Federal Court of Appeal has been instrumental into maintaining this, into confirming this role, through, for example, the Canadian Association of Broadcasters versus SOCAN in 1994, when they said that the board properly understood its function, when it stated that it had to regulate the balance of market power between copyright owners and users. Il y a 4 régimes à travers lesquels la Commission des droits d'auteur va effectuer ce travail-là avec les sociétés de gestion collective. Les 3 premiers sont mandatoires, donc les sociétés collectives doivent déposer un projet de tarif auprès de la Commission des droits d'auteur. Et le dernier régime, qui est le régime général, lui est volontaire. C'est-à-dire que soit les sociétés de gestion peuvent négocier avec les utilisateurs, et en cas s'ils ne parviennent pas à techniquement, l'idée, c'est que s'ils ne parviennent pas à un arrangement, ils vont faire affaire avec la commission. La fonction, the regulating and educating function of the copyright board, for some people, leads to some sort of normative uncertainty. For example, in the decision I'm going to talk about next, the board used an economic analysis to find out what was the price for copies of material work, of copyrighted work in education, we're talking about from kindergarten to 12th grade. And this market price would be determined through an economic analysis of how much is worth a copy of how much is worth one photocopied page. But then they decided to give a discount to the schools. They decided because even if they did think that normally you would not take into account the capacity of somebody to pay in order to pay the tariff, it was out of fairness and equality that they would give such a discount, a 10% discount for the first 4 years of the tariff, notably because they would give it to private sector entities. Bon, maintenant, la décision Alberta Education contre Access Copyright. Donc, qui sont les parties? Access Copyright est donc une société de gestion. C'est une société de gestion à but non lucratif qui possède un répertoire d'auteurs et d'éditeurs sur des livres, des magazines, des revues, des journaux. Elle va consolider ce répertoire-là, elle marche ce répertoire-là avec des ententes d'affiliation, avec des organisations d'auteurs et d'éditeurs, et avec des ententes libérales, bilatérales, avec d'autres ressortissants d'autres juridictions qui vont administrer les droits de propriété partout, au Canada, sauf au Québec, Pour qui c'est CopyVec? Il y a d'ailleurs une entente libérale entre CopyVec et Access Copyright. Donc CopyVec sur le territoire du Québec va s'occuper du répertoire de Access Copyright et vice-versa. Et du côté de la coalition, on avait les opposants aux tarifs, qui étaient les ministères de l'Éducation de toutes les provinces et les commissions scolaires d'Ontario. Access Copyright a toujours voulu une redevance qui était basée sur le principe du volume de pages photocopiées et de la nature des pages photocopiées. C'était là-dessus que la société voulait qu'on base le tarif. Après sa fondation en 1988, elle a commencé à négocier avec les écoles primaires et secondaires pour établir ce tarif-là. Et est arrivé en 91 à un tarif de 1 $ par étudiant qui étudie l'équivalent d'un temps plein, un étudiant à temps plein. Donc, 1 $ par étudiant, puis ce tarif-là était en place jusqu'en 97. En 98, on augmente le tarif à 2 $ et en 99 jusqu'en 2004, on l'augmente jusqu'à 2,30. Des nouvelles négociations vont commencer en 2003 et Access Copyright décide d'augmenter grandement le prix. On passe d'un tarif de 2,30 à un tarif proposé de 8,92. Alors que les opposants, eux, demandent 2,43. Et un des grands éléments de dispute était l'étendue de l'utilisation équitable. Selon Access Copyright, sur l'ensemble des photocopies qui se faisaient à travers ce territoire pendant un an, on est arrivé à un total de plus de 10 milliards de pages photocopiées. Il y avait seulement 825 870 pages qui étaient de l'utilisation équitable, alors que les opposants, eux, croyaient que c'était près plutôt de 20 millions. La commission va dire que c'est 1 649 000. Comment on est arrivé à ça? Ils sont allés dans suffisamment d'écoles et de commissions scolaires pour représenter à peu près 9 %. L'étude fait représenter à peu près 9 % de tout le secteur de l'éducation. Il y avait quelqu'un qui était payé pour être près d'une photocopieuse, 10 jours consécutifs. Et on notait pour chaque photocopie la quantité de copies, la provenance et le but de la photocopie. On est arrivé à 4 catégories duquel on pensait que ça pouvait être l'utilisation équitable. Les 3 premières catégories ont été devenues par les parties comme étant en fait l'utilisation équitable. Ces 3 catégories-là étaient généralement une copie qui était faite par un membre du personnel de l'école ou de la commission scolaire pour un tiers à la demande du tiers. Donc, quelque chose qui ressemblait un peu aux circonstances de CCH. La 4e catégorie, qui représentait presque plus de 16 millions de copies, était 16 millions de pages photocopiées, était une les photocopies qui étaient faites par les professeurs pour leurs étudiants sans qu'ils l'aient demandé. Donc, les étudiants disposent, par exemple, pour un cours d'un manuel de base, puis le professeur va rajouter des choses, un cartable d'extraits photocopiés pour faciliter leur apprentissage. C'est ces copies-là que Access Copyright voulait qu'ils soient donc exclus d'une conception de l'utilisation équitable. Et la commission du droit d'auteur a été d'accord avec eux. So going through the different CCH criteria, the first thing, one of the strongest opposition from the part of Copyright Board was the purpose of copying. In that case, they said the purpose of copying is instruction. It's teaching. It's not, as the opponents thought, the coalition thought, research or private study. And they said that they gave a lot of importance to the fact that these copies were not made at the request of students. So it was at the initiative of teachers that thought that they should read this or that. And because of this, it made instruction or non-private study the predominant purpose of the copies. In terms of private study, they thought that studying in a classroom is a public setting. It is not private study. So what we would be doing right now would not be private study. It would be something like non-private study or public study. The Supreme Court will later say that they confounded the criteria of the amount and character of the dealing. Normally, the criteria is to, in terms of the amount is to consider what the excerpt that is copied in consideration with the whole work. And what the copyright board said was that when you take into account all these short excerpts in all these classes over many years, you have an amount of copying that is you have an amount of dealing that is unfair. Then the copyright board said that there is an alternative to copying short excerpts. You could buy these books for all students. And they said, yes, of course the schools cannot really afford that, but in terms of determining if the dealing is fair, whether they can afford it or not is not an issue. And finally, for the effect of the dealing, which is probably one of the most most peculiar point of the decision, is that Access Copyright said that there was, in the last 20 years, there was 30% less sales of books. And the Copyright Board said, well, there's no evidence that these sales had an actually that the teachers copying had an impact on these sales. But because they copy a lot, we will say that it does have an effect. The Supreme Court, with a judgment written, the majority, it was a 5-4 decision, and the Justice Abela disagreed on a lot of points with the assessment of the Copyright Board. There is first a different conception of what learning and teaching is about. The majority said that there was no ulterior motives from teachers. They were not trying to build an undecided market of course packs that it would sell to other people. The only purpose that they were doing in this category of dealing was to make sure that there was a wider distribution of these excerpts that they thought was relevant to the students' learning and development. And Abela spoke of a symbiotic purpose of instruction and study, that you cannot dissociate the two. In a very quick passage, it says that Justice Avalor says that studying is essentially personal, and that the Copyright Board should have focused on the concept of studying and not the setting, which tends to make the notion of private study a bit empty. Because if you talk about studying as something that is essentially personal, you can wonder what private study would be like, considering that studying is always personal. And then it dissociated the amount versus the character of the dealing. The majority of course said that there was no realistic, that actually the buying books for everybody was not a realistic alternative because they were only using short excerpts. And finally, and rightly so, they said in terms of the effect of dealing, there's no evidence of it. The copies that were made by the teachers only represent 7% of all photocopies that were made overall in the education sector. And again, short excerpts. There's no need to buy the whole books. La question de l'utilisation équitable est une question de fait, c'est une matière d'impression. Normalement, le critère qu'on doit appliquer, c'est est-ce que la décision est raisonnable? Et c'est le critère que devait appliquer la Cour. Donc, on se rapporte à la décision Law Society of New Brunswick versus Ryan, dans laquelle on va dire que a decision will be unreasonable only if there is no line of analysis within the given reasons that could reasonably lead the tribunal from the evidence before it to the conclusion at which it arrived. And it's really on the hinge of that factor that Justice Rothstein and the three other judges were dissenting. They thought that even if you don't agree with the reasoning of the Copyright Board, it wasn't unreasonable. It was reasonable to conclude that the purpose of the dealing is the teachers. So there was a different conception of what learning is about, as something that comes directly, that comes from the teacher to the students and is not a symbiotic relationship where the student is not actively engaged in the learning. He's just given something by the teacher. They criticize the majority for saying that studying is, they also think that studying is essentially personal, but the setting is relevant. And if you don't take into account private study, you would say that Parliament speaks in vain. They agreed on the principle that the amount and character of the dealing were separated, but they did not find the copyright board made that sort of, were confusing the two. And they saw that even it was not a realistic alternative to ask people to, ask these schools to buy books for everybody. It wasn't unreasonable. And if they did agree with the majority about that there was no, the dealing had very little effect on of the work, by itself, it wasn't sufficient to change the copyright board decision. But 5-4, and if there's something you should take away from this lecture, it's 5-4. And the court really sat down on the same pursued the trajectory it took from CCH. If there's one thing that's interesting with what the copyright board is this whole economic analysis that they do, which is something that was very little talked about by the Supreme Court. One interesting aspect is the way that they calculated the worth of a copy. What Access Copyright was saying is that you need to take into account the fact that there's many costs in producing a book, and when you make a copy, you are free writing on all these costs, including delivering the book to the library, this gas, this pay, this so the publisher has to recuperate all these expenses through the cost of a book or a journal or a magazine. And what the copyright board says that the only thing that you take from a copy is the creative contribution from the author and from the publisher. And everything else should not be taken into account. And that made that reduced the value of the pages by 2. And then they had an added value of a single page. And they gave the example on iTunes, when you buy a single song, it will cost you more than if you buy the whole album for all these songs. All these songs separately cost more than the album. And they said, we're going to increase the price to take account of that. So it is interesting to say that even if they did have a flawed reasoning about the effect of the dealing, the way that they should, that the effect on the market should be reflected if it's fair dealing, they still take into account when they come up with a tariff. So it's something that appears in the economic analysis and not the legal analysis. And they went from the 8.92 tariff that Access Copyright was requesting to a tariff of 5.16, with the added discount that brought it to 4 et de poussière. So what's the aftermath of it? How can we expect the decision to change or at least affect the copyright landscape in Canada? There were numerous reactions from everybody involved the day when the decision was released, including Access Copyright, of course, which released a statement on July 12, the same day. I would have loved to see the statement they had prepared in case they have won. And which statement they said that Maureen Kevin, the executive editor of Access Copyright, said that the fact is the Supreme Court was only looking at about 7% of the copying done in schools. The decision absolutely does not mean a free fall on copyright-protected materials used in the classroom. On the contrary, it leaves copyright licensing in the education sector alive and well. And they would say that over 90% of copying in these schools are unaffected by the decision. What they don't really say is that on the 10 billion pages that were taken into account, they found out that only about 200 millions were actually 246 millions were actually copies that could be paid for to Access Copyright. So their tactic is to really reduce the amount to inflate their own repertoire, so that people still think that they really need to rely on their license if they want to photocopy material in school. There was completely different reaction. Professor Michael Geist, for example, wrote a blog on how the decision eviscerated the business model of access copyright. There was no way that access copyright could come back from this. And it was a timely decision because of the coming in of copy of C11 education, the entry into force of C11, which now includes education among the purpose of fair dealing. Access copyright is a perfect discussion to decide what's fair and what's unfair in education. First, in terms of this symbiotic relationship between education and between instruction and learning, and also because of the alternative to the dealing. Now, it is fine, it is fair for a school to buy an original, have it in its library, and allow its teachers to copy short excerpts for the students. That being said, the problem with fair dealing is that only experts know what fair dealing is. There's a lot of uncertainty around the notion, and it might have explained why, at least until C11, most schools prefer to rely on educational establishment-specific exceptions because they give clearer accounts of what's allowed and under which conditions. There were, even before this case, guidelines, copyright guidelines, that basically ignore fair dealing. York University had a document called Copyright in You, in which it said if you want to copy something that is not provided by the license of access copyright, you need to get the permission of the author. There was no mention of fair dealing in it. And during the summer and before the case. The University of Western Ontario and the University of Toronto, they entered a new deal, a new license deal with access copyright. For the sake, many people think, to avoid the risk of prosecution. And now you have these new exceptions in C11, in addition to fair dealing, that might also allow the education sector to do many more things with its material. But unlike the previous version of the Act, the fact that you have fair dealing on education will allow you to do more stuff that you could do with the exceptions. So, for example, if you take online education, the section 30.01, that is a new section under the new copyright law, that allow you to take a copyrighted material and provide it in an online course with one condition, for example, that you have to make sure that after the final evaluation of the course, you will destroy that copy after 30 days. And students can themselves also download the copy, but they will have 30 days after the final evaluation, they will have to destroy the same copy. Ce qui est un peu étonnant dans une perspective d'apprentissage, que une fois qu'on a fait par exemple littérature 101, on doit effacer tout ce qu'on avait, tous les extraits qu'on avait pour avant de faire le prochain cours de littérature. Donc le fait que l'utilisation équitable inclut l'éducation va nous permettre peut-être de faire plus de choses avec le matériel dans le secteur. And there were new, before and after the case, there were new tariffs and negotiations that happened in the sector. For example, for universities, you had a deal that was between 2004 and 2007, and renewed again until 2010, where the price, universities would be allowed to copy the material from Access Copyright's repertoire for a base price of 3.38, with 10 cents per page for course packs. And later in 2010, Access Copyright proposed a new tariff, which would be based on $45 per student for every university, so from $3.38 to $45. And they increased the price because they wanted to include digital reproduction. Obviously, this led to a lot of outcry, and they managed, some universities managed, including University of Toronto and University of Western Ontario, to bring the price down to 27.50, which for a lot of people is still outrageous, because when you had the other system, you would come to an average cost of $17 per student, which will include the course packs. And now we have less and less course packs, and we have more fair dealing exceptions, and we have the access copyright case, so this price should go down. But it's not something that access copyright and these universities are doing. One of the reasons being that what these universities want is to avoid the risk of prosecution. And they don't. And some people say that they don't care about the price because they're not the ones paying. It's reflected in the tuition. So the students will pay an additional 27.50. Now, that's a great deal. I won't sue you, and you don't pay for it. One thing that is making access copyright nervous, and CopyPick too, is a new fair dealing guidelines that were adopted in August 2012 by the Association of Canadian Community Colleges. And here you have a comparison of the model license that Access Copyright is using for universities right now versus what these fair dealing guidelines allow you to do. Under the AC license, Access Copyright license, you can copy up to 10% of a repertoire work, 20% if it's part of a course collection, which for many people doesn't mean much because now we rely more on databases, more on Web City courses, and you can have copies of one chapter of a book, one article of a periodical, one encyclopedia entry, and you have royalties, 27.50. You have conditions. For example, you cannot send this copy to somebody else outside the university. So if we were under this license, I could not send you a copy of an article according to this license. Different sort of limitations. For example, in terms of digital reproductions, they require that you have that these copies circulate on a secure network, and different obligations in terms of monitoring the sort of copies you're doing, how many are exchanges. And on the other side, you have fair dealing, which gives you, according to the ACCC, about the same thing. So the collective societies now have to think what are or the added value that they bring. If you look at, for example, Hein Online, they have an added value to the access of this work. They have a search engine. They have hypertext links. They really help you in finding information that you need. What Access Copyright said so far, there's one statement of them that I really like, and it's called that it's the time for constructive conversation about school access to copyright-protected material. A constructive conversation. In which statement they talk about a rumor that the Ontario school boards are thinking about opting out the license and rely more on fair dealing guidelines. And in this statement, they say, well, it's very unfortunate because we're going to have to sue you. And this is the kind of constructive conversation that they want to have. So it is more time for a constructive conversation about this whole compensation scheme that collective societies do. One of the problems that we had when they modified the copyright law is that they didn't modify the compensation scheme. They used a compensation scheme that was made for paper, that was made for old technologies, and they bring all these new exceptions. So maybe the next thing to change, the next thing to think about is how collective societies, the added value of collective societies. Thank you.
Thank you so much, Mr. Lord. I will never call you Maître Lord again. That was really terrific. Of course, now we know you all can tell that it's time for a break. I just want to make two quick announcements. The first is that there will be a joint Q&A with all three speakers at the end of the third presentation. So during the break, while you're giving generously to the student table for your snacks, think of some good questions to stump these presenters. And the second announcement is that the PowerPoints that you see tonight will be put up on our website, on the Formation Continue website. So enjoy the break, and we'll see you in about 15 minutes.
That's okay. No, it's a
Could everybody please take your seats? We'd like to continue the program.
Alors, c'est un plaisir de vous présenter maintenant notre troisième conférencier de la soirée, le professeur Moïse. Pierre-Emmanuel Moïse est professeur adjoint à la Faculté de droit de l'Université McGill et directeur du Centre des politiques en propriété intellectuelle. Ses recherches et son enseignement portent sur la propriété intellectuelle, le droit des affaires et le droit des biens. Il est également responsable du programme conjoint droit MBA, en partenariat avec la Faculté de gestion des hôtels de McGill. Auteur prolifique, il est directeur de publication de la série sur l'innovation et la concurrence aux éditions Thémis. Tout récemment, il a également agi à titre de directeur éditorial du nouveau Juris Classeur Québec sur la propriété intellectuelle lancé ici en janvier dernier. Avocat, le professeur Moïse, Maître Moïse, a plaidé avec succès la cause Euro-Excellence contre Kraft Canada devant la Cour suprême du Canada, l'une des décisions les plus importantes des dernières années en droit de la propriété intellectuelle. Je vous demande donc de vous joindre à moi pour souhaiter la bienvenue à M. Moïse.
Monsieur le Président d'honneur, chers collègues, c'est un plaisir, ça faisait 2 ans que nous ne nous étions pas vu, et un plaisir aussi de vous accueillir chez nous pour un voyage au sein de notre domaine, la propriété intellectuelle. Je pense que je vais être un peu plus divertissant que mes compatriotes et moins savant. Je trouvais l'attitude plus appropriée en fin de journée, et comme il m'appartient de vous accompagner progressivement vers la sortie. D'abord, en passant par les périodes de Q&A, les questions à mes prédécesseurs et à moi-même. Alors, mon ton va être très légèrement différent. Alors, c'était la diapositive initiale, c'était mon titre d'entrée, distribution et copyright, From Grey Marketing to Digital Distribution. Et puis, je me suis dit que peut-être... comme il m'était donné de présenter 3 décisions, je ne sais pas qui a choisi de m'en donner 3 alors que mes collègues en avaient juste une. Je me suis dit qu'avec le travail que j'avais devant moi, peut-être qu'il valait plus que justement que je mise sur le divertissement. Et je me suis dit pourquoi pas changer de titre et de prendre quelque chose qui pourrait résonner un peu plus. Very shades of grey, hit me with copyright law. Et je me suis dit qu'on allait ainsi pouvoir dialoguer dans une atmosphère un peu plus détendue sur des sujets importants. Alors je me suis dit également que j'allais changer le plan au lieu de prendre les décisions qui m'étaient données, que l'on m'a forcé d'étudier, qui étaient d'ailleurs les plus longues. Je me suis donné de reformuler un petit peu dans les mots et les citations de James, l'auteur de Fifty Shades of Grey, de reprendre les citations qui pouvaient résonner, qui pouvaient me permettre d'expliquer plus facilement et de manière ludique les décisions, les 3 décisions que j'avais. Alors la première, qui va être en fait une pièce en 3 actes, l'acte premier... Why do some people like cheese and other people hate it? Do you like cheese? C'est une citation de Christian Grey. Et je vais vous parler donc sous ce titre de la première affaire, Ray Sun. Puis acte 2, we pick up the rhythm, qui se passe de commentaires, mais qui va avoir attrait à une autre forme d'acte répété qui va être le précédent en droit. Et puis, acte 3 pour finir, Raising the Ordinary to Extraordinary. Et là, j'aurais besoin de votre attention parce que c'est la partie la plus difficile. Et je vous passe pour l'instant l'épilogue, ça sera une surprise. Alors, on va s'amuser, mais en même temps, on reste sérieux. Alors, il va y avoir certainement des quiz également. On va peut-être vous poser des questions. Et je parle principalement pour les personnes qui sont dans l'autre salle, que je ne peux pas voir directement et que j'ai vu lire quelques magazines. Alors, je me permets une petite note. Alors, acte 1, entrée en scène de la première décision que j'avais à vous présenter. Why do some people like cheese and other people hate it? Do you like cheese? Et pourquoi certaines personnes aiment le fromage et d'autres non? Parce que c'est comme ça et c'est un peu le ton avec lequel a répondu la Cour suprême dans l'affaire qui nous occupe maintenant, Rayson de 2012. Il s'agissait d'une décision qui examinait un tarif qui avait été proposé par une société de gestion collective pour les droits des artistes interprètes, des droits voisins, lorsque les enregistrements sonores étaient accompagnaient un film comme bande sonore. Alors, je reviendrai sur cette diapositive à un instant, mais la société de gestion collective qui gère les droits voisins, les droits des artistes interprètes pour leur prestation sonore, avait déjà obtenu certains tarifs, et puis ça n'étonnera personne, depuis 1997, la loi sur le droit d'auteur au Canada contient les droits voisins qui protègent et qui donnent un droit à rémunération pour les prestations sonores, pour les enregistrements sonores. Et ce que vous avez au tableau ici sont les droits qui avaient été obtenus dans un tarif précédent, droits à rémunération des droits voisins pour l'utilisation des enregistrements sonores lorsqu'une œuvre musicale est utilisée lors d'un acte de radiodiffusion. Alors, ça aide, je pense, à bien comprendre ce dont on parle. Vous avez dans la partie supérieure du tableau les redevances qui sont dues à titre de droit d'auteur et puis dans la partie du bas, les redevances qui sont dues à titre de droit voisin. Et vous voyez très clairement la différence. L'article 5.1, une station utilisant peu d'œuvres, donc là on parle d'œuvres, et un peu plus loin, on parle des droits afférents aux enregistrements sonores. Une station utilisant peu d'enregistrements sonores, cette fois-ci l'objet de la protection n'est plus une œuvre, mais l'enregistrement sonore de ladite œuvre. Alors, ce que demandait la société de gestion collective dans ce projet de tarif, c'était d'obtenir une rémunération pour ces enregistrements sonores qui accompagnent les bandes sonores des films. Alors, on travaille par analogie, on se dit, puisque les artistes interprètes ont des droits voisins et que rémunération leur est due pour la radiodiffusion de leur œuvre, notamment dans des actes de radiodiffusion, pourquoi, lorsqu'un film est joué et que l'on entend la bande sonore, vu que la bande sonore contient l'enregistrement, l'objet de la protection, alors pourquoi il n'y aurait pas un droit à rémunération? Alors, c'est exactement ce que veulent chercher la société de gestion collective dans ce tarif. Les artistes interprètes, et c'est la question, peuvent-ils réclamer une redevance pour leurs enregistrements sonores lorsqu'ils sont utilisés dans la bande sonore des films? Je voulais vous montrer, quand même, pour vous montrer à quelle est l'actualité et en même temps comprendre le droit par l'exemple. Je vous avais mis ici un extrait de Saturday Night Live, où vous voyez John Travolta dans un habit qui lui va très bien, et sur une trame sonore de Frank Stallone, qui est le frère de Sylvester Stallone, qui produisait cet épique film des années 80, 1983, et où l'interprète était Cynthia Rhodes, qui également danse et chante dans ce film. Je ne sais pas si ma patronne va m'autoriser de montrer le film. On y reviendra peut-être par acclamation à la fin de la présentation, on pourra venir à cet extrait de film qui est mémorable, un morceau d'anthologie qui devrait occuper toute votre cinémathèque. Alors, Comme pour la question que je posais tout à l'heure, pourquoi certains aiment le fromage? Parce que c'est comme ça. La Cour va dire, ben, c'est également comme ça. Vous n'avez pas le droit à rémunération. Pourquoi? Parce que dans la définition d'enregistrement sonore, on exclut l'enregistrement sonore qui accompagne, qui est dans une bande sonore d'une œuvre cinématographique lorsqu'elle accompagne celle-ci, tout simplement. Lorsque la musique, l'enregistrement, la prestation est inclue dans la bande sonore d'une œuvre cinématographique, alors elle n'est plus, elle est privée de son qualificatif d'enregistrement sonore, l'objet de la protection du droit disparaît, et avec elle, la rémunération. Donc, pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est parce que la loi le dit. On arrive à des choses un peu plus sérieuses, we pick up the rhythm, de l'avantage du précédent en droit. La deuxième affaire dont je vais vous parler, c'est cette affaire Rogers contre Socan, toujours une question de tarif et mettant en cause une homologation demandée et contestée par la Socan, la société de gestion collective, qui gère les droits d'exécution publique. Alors, je vous ai mis ici, de manière assez simple, la question qui avait été posée à la Cour, la question de fond. Rogers et d'autres parties présentes ont des plateformes Internet à partir desquelles la musique peut être non seulement déchargée, mais écoutée en continu sous forme de streaming. Vous avez tous entendu et vous avez tous écouté et utilisé un de ces services. Et la Socan, gérant les droits d'exécution publique, avait demandé un tarif pour obtenir une rémunération, donc de ses prestataires qui mettaient, utilisaient les œuvres lors d'un acte de communication publique. Alors la question, techniquement, était la suivante. La transmission en continu de fichiers musicaux sur Internet à la demande d'un utilisateur individuel constitue-t-elle une communication au public par le service de musique en ligne? Alors l'affaire, si on regarde comme ça la question, la question a l'air relativement triviale, mais c'est une question qui a occupé le droit d'auteur pendant les 30 dernières années, à savoir comment caractériser la communication lorsque cette communication se faisait par plateforme numérique et lorsque le contenu de cette communication était complètement dématérialisé. Alors il va falloir qu'on revienne un petit peu à cette question de communication. En réalité, l'idée de communication, et on le dit peu en droit d'auteur, mais c'est un moment clé du schéma de la loi. Le moment de la communication, c'est le moment qui sépare l'avant de l'après. Avant la communication de l'œuvre, l'œuvre est tout entière à l'auteur. Et en réalité, les premiers auteurs qui ont parlé et ont élaboré sur la propriété littéraire et le droit d'auteur ont véritablement souligné ce moment, ce passage où l'œuvre va être, où l'auteur va se déposséder de l'œuvre et la rendre publique. Et certains auteurs parlent d'un don. En réalité, cette communication, c'est un don. C'est à partir de ce moment-là où on réalise que l'œuvre a une utilité sociale, c'est-à-dire qu'elle a un public, c'est-à-dire qu'elle a une valeur et qu'il y a un intérêt derrière l'acte créatif. Donc cette communication, c'est le moment, c'est la désolidarisation du moment entre l'auteur et son œuvre. C'est le moment où on commence l'exploitation. Et c'est un point important. Cette communication, c'est-à-dire le moment où l'exploitation, c'est-à-dire l'arrivée des droits économiques, va émerger, elle peut être directe ou indirecte. Cette communication, finalement, elle peut être l'effet d'une représentation théâtrale, d'un récital. Je récite, ce que je fais actuellement devant vous est une communication directe d'une œuvre qui n'est pas écrite ici, mais c'est une communication directe. Et puis il y a une communication que l'on a appelée indirecte, puisque finalement, si je vous donne par écrit cette même communication, l'œuvre que je suis en train de réciter, vous la lisez chez vous et il y a une communication indirecte. Donc on a eu cette idée, derrière l'idée de communication, de penser l'exploitation à travers de direct et indirect. Ce qui a donné la naissance de deux droits. En réalité, ils étaient trois à l'origine. on en a oublié un, et on y reviendra peut-être un peu plus tard, si vous avez le courage. Mais les deux qui étaient les plus importants, ceux qui se comprennent bien, c'est quand vous pensez à la communication indirecte, comment cette communication indirecte se rend-elle jusqu'à l'acquéreur ou jusqu'à l'auditeur? C'est par le livre. Le livre, il faut l'acheter, mais avant qu'il puisse rendre à l'audience son contenu, il faut encore l'imprimer. Donc on a trouvé tout simplement l'idée de reproduction pour capturer ce moment de particulier de l'exploitation. Alors, le droit de reproduction, il n'est pas très difficile à comprendre, et puis je pense qu'on en a tous instinctivement une certaine compréhension. Historiquement, c'est la presse, bien entendu, mais la presse industrielle, plus que la presse manuelle, comme vous le voyez ici, et puis plus proche de chez nous, c'est la photocopieuse, et puis ce qui a donné, le long de ce long fleuve tranquille de l'histoire de la reproduction, les questions dont vous a parlé Francis Lord sur la gestion de la reproduction dans les établissements et ailleurs et avec les outils que l'on a aujourd'hui. Et puis, quant à la communication directe, lorsque l'on pense à la communication directe, c'est-à-dire l'acte à laquelle je me soumets devant vous aujourd'hui, on parle d'exécution publique. Et l'exécution publique, c'est comprise dans avec un contact direct avec le public. Et on a parlé pendant un temps de la représentation en public. On était en public. Nous sommes la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Et ces deux éléments-là qui correspondent à deux schémas d'exploitation sur lesquels notre modèle de droit d'auteur est basé, mais pas seulement le nôtre, le modèle occidental est basé, se retrouvent dans le chapeau de l'article 3 qui est l'article qui définit les droits économiques donnés à l'auteur, au titulaire de droit. C'est intéressant parce qu'on a plutôt... On a plutôt l'habitude de lire les sous-paragraphes de cet article-là. En réalité, tout le droit d'auteur est contenu dans son incipit, dans sa partie première. Le droit d'auteur, et c'est la partie la plus traditionnelle finalement, le droit d'auteur sur l'œuvre comporte le droit exclusif de produire ou de reproduire. Donc on retrouve notre communication indirecte. La totalité ou une partie importante de l'œuvre sous une forme matérielle quelconque, nous reviendrons à cette question de forme matérielle quelconque, d'en exécuter ou d'en représenter. Alors là, ici, on a l'acte de reproduction et l'acte de représenter la totalité ou une partie en public, représenter en public. Donc, les deux assises fondamentales du droit d'auteur, elles sont celles le droit de reproduire et de représenter en public. Et puis, advient les éléments qui ont transformé l'œuvre en être complètement intangible, qui s'est répandu à travers les ondes et retransmise à des points distants. Est-ce qu'on est toujours dans un acte de représentation en public? Est-ce qu'on est en public? Et là, j'avais comme idée le célèbre appel du général de Gaulle et puis les postes à Galène où on écoutait en Europe la BBC pour connaître le mouvement des troupes. Les Français parlent aux Français. Et est-ce qu'on est dans un schéma ici, où on est dans le schéma traditionnel dans lequel avait été pensé le premier acte d'exploitation, qui était le droit de représenter en public et qui permettait à l'auteur d'être rémunéré sur les billets qu'on avait vendus. Là, il y a quelque chose qui a changé. Là, il n'y a plus de simultanéité. Il y a peut-être encore une simultanéité, mais on n'est plus dans le même endroit, géographiquement. Alors, le droit de représenter en public a évolué. Il a évolué avec les technologies qui ont emporté les œuvres loin de la scène, loin de l'acteur, loin de l'auteur, et qui les ont distribuées à des groupes de public, des audiences particulières, en fonction des développements technologiques. On peut dire très très rapidement que jusque dans les années 1900, on parlait véritablement d'un droit de représenter en public. Avec l'avènement de la radiodiffusion communiquée au public, on a changé le « en » au « au », « in to », par radiodiffusion, et la radiodiffusion, et bien entendu, n'a plus suffi, et on a modernisé encore ce droit pour transformer le droit de représenter en public, ou en ajouter un complément en créant le droit de communiquer au public par télécommunication. Et la dernière version de cette communication directe, que l'on avait pensée directe, qui se développait en parallèle au droit de reproduction et à l'économie du support, à l'économie de l'exemplaire, eh bien c'est l'article 3F, qui subsiste en même temps que le chapeau que je vous ai montré. Dans le chapeau, il y a, on retrouve l'essence, la substance du droit d'auteur, représenté en public, mais on retrouve également adjoint au droit de représentation traditionnel, celui qui représentait la manifestation théâtrale d'une œuvre, on retrouve cet article-là, 3F, qui est la version la plus moderne du droit d'exécution publique. Le droit de communiquer, l'auteur seul ou son titulaire a le droit d'autoriser la communication de l'œuvre au public par télécommunication. Est-ce que ça correspond encore? J'ai mis une date sur cette formulation nouvelle de cette communication directe, c'est nouveau au langage du droit pour appréhender la technologie de l'époque, mais c'est une technologie qui est peut-être déjà désuète. Est-ce que l'on peut encore parler d'une communication publique? Est-ce que ça correspond encore au mouvement, à la transmission des œuvres sur Internet ou dans les réseaux? Est-ce qu'on est encore dans une même logique? Est-ce que les mots de l'époque, les mots des années 90 et 2000 qui ont vu naître cette communication au public par télécommunication légèrement avant, est-ce que c'est encore un mot qui a résonance avec les technologies actuelles? Alors on a déjà eu des réflexions importantantes. Pour chaque droit, chaque fois qu'on est capable de qualifier un acte, il y a un mécanisme de rémunération. Pour chaque droit, un titulaire. Et pour chaque mécanisme de rémunération, donc, différents payeurs et différents payés. Mais ultimement, on a toujours en fin de ligne, à un moment donné, l'auteur. Même si peut-être sa partie qui lui revient est divisée, en prenant compte que l'auteur n'est pas toujours le titulaire des droits. On avait déjà réfléchi, repensé à la façon dont on devait envisager ce droit de communication publique d'une œuvre par télécommunication dans des espaces que nous connaissons tous, notamment dans des espaces de communication par fax. La question qui avait été posée, mon collègue, le professeur Lametti, a référé à cette cause pour la question de l'utilisation équitable, mais il y a des aspects de qualification juridique sur cet acte communiqué. Donc, la question était fort simple. Le barreau du Haut-Canada envoyait par télécopie des œuvres protégées. On comprend qu'il y a une question qui est une question indépendante de reproduction. Les deux droits cohabitent, coexistent, et l'un n'exclut pas l'autre. La question de la reproduction par le barreau du Haut-Canada est une première question. D'ailleurs, les exceptions d'utilisation équitable ont été traditionnellement pensées pour le droit de reproduction et pas pour le droit de communication, qui est apparu plus tard. Donc, deuxième question, en plus de ce droit-là, qu'est de figer la reproduction par les photocopieurs qui sont dans la bibliothèque du Haut-Canada. Est-ce qu'il n'y a pas en plus un acte de communication au public lorsque je transmets, lorsque j'envoie par télécopieur mon opinion ou un exemple ou un extrait de livre ou un chapitre de livre à un confrère, est-ce que je fais un acte soumis à l'autorisation de l'auteur, en l'occurrence un acte de communication au public? Et voici ce que répond la Cour. Dans un obiter, elle examine la question. Elle essaie d'examiner si, en envoyant une copie, on enfreint le droit de communication. Il dit non. Quand on envoie un fax à une copie, on parle d'ailleurs de copie, on ne parle pas d'œuvre. Quand on envoie une copie à un seul individu, nous ne sommes pas dans un acte couvert par l'acte de communication au public. La Cour va aller plus loin par la suite. Elle va s'avancer en disant, mais peut-être que si je programme mon fax pour envoyer la copie à plusieurs individus, cette fois-ci, peut-être que je serai dans un acte de communication au public par télécommunication. La question de la télécommunication ne se pose pas. La question du au public se pose moins, puisqu'il y a plusieurs personnes qui sont récipiendaires de cette communication. On voit déjà poindre la question de l'appel d'une œuvre individuelle, de la caractérisation de l'appel d'une œuvre d'un utilisateur qui clique sur un lien et qui appelle le déchargement d'une œuvre. Et la question devient, si on avance encore dans l'ère technologique, est-ce que la transmission d'œuvres en ligne est une communication au public ? Est-ce que l'utilisateur isolé dans sa sphère privée, qui clique et appelle la commande, la transmission, provoque la transmission d'une œuvre, est un acte soumis à la loi ? Et là, sur cette question-là, le Canada s'était démarqué. Il s'était, j'emploie le passé, parce que en 1999, on a eu au monde une des premières décisions rendues par la Commission du droit d'auteur qui a été très loin dans l'analyse juridique et qui a rendu une décision qu'on a appelée Tarif 22, qui a été longuement commentée, qui a fait le tour du monde, qui a été en fait la première copie juridique sur une opinion sur la qualification juridique de l'acte de transmission d'une copie, soit par lien hypertexte, soit par envoi de courriel. Et la Commission avait fait 10 recommandations sur comment imaginer ce qui, à l'époque, était encore nouveau. Internet commercial, c'est 1993. Le temps que la cause soit entendue et qu'il y ait jugement, 1999, on a cette décision. Cette décision est ramenée plus récemment dans une décision de Cour suprême que vous avez devant vous, la décision Society of Composers contre Canadian Association of Internet Providers. Et la Cour suprême, dans cette décision, ramène la décision de 1999 de la Commission de droit d'auteur, qui avait été la première à défricher le terrain, et ramène une conclusion qui, jusqu'à présent, avait été l'état du droit. Une œuvre musicale est communiquée par télécommunication. Donc il y a application du droit de communication publique dans les nouveaux environnements au moment où un serveur contenant l'œuvre répond à une demande et qu'il y a transmission de paquets sur l'Internet. Et que ce paquet est reconstitué pour finalement faire cette communication directe de l'œuvre. Finalement, la Cour, 1999, 2004, 5 ans plus tard, la Cour suprême vient confirmer l'analyse juridique en disant, dans l'ère, dans l'espace Internet, rien de plus naturel que d'utiliser le droit de communication, la version moderne du droit de représentation en public, puisque l'on cherche à faire, c'est d'aller capter ou de rémunérer cet acte de communication directe. Et puis, il restait encore quelques doutes, parce que avant même qu'il y ait transmission, avant qu'on provoque le déchargement, l'œuvre siège quelque part, elle n'est pas encore appelée, elle existe. Est-ce que dans ce moment de passivité, elle se laisse désirer, elle attend qu'on vienne la chercher, est-ce que dans ce moment de passivité, ici, il n'y a pas la négation du droit de communication ? Alors, on s'est entendu, 1994-95, on a fait un traité en 1996, ratifié en 1998, que l'on vient juste de mettre en vigueur avec notre loi C11 promulguée en novembre dernier. Ce traité de 96, pour lequel nous étions signataires, prévoyait qu'il y avait communication au public lorsqu'il y avait mise à disposition. Et donc on inclut la mise à disposition, ce moment statique, pour préciser que le droit de communication, dans l'environnement particulier et dans les manières d'utiliser Internet, était toujours d'actualité et pouvait être encore appliqué. et puis C11, je viens de le mentionner, a intégré les traités de 96 qui sont une précision au droit de communication, si vous voulez, la dernière forme, la forme la plus achevée de ce droit, et qui vous indique que pour l'application de la présente loi, constitue une communication publique par télécommunication le fait de mettre à la disposition du public. C'est une communication, le fait de mettre à la disposition au public. Alors même qu'il n'y a pas eu encore transmission. Mais si elle est destinée à être transmise, alors il y a communication. Ce point est important parce que vous allez voir dans que la prochaine cause va mettre en relief ou en tout cas va venir contredire ce point-là. Pour revenir à cette affaire Rogers, qui examinait encore une fois un cas très particulier, qui est la transmission en continu d'un filet musical, donc d'œuvre musicale, on a une confirmation de toute la jurisprudence antérieure, en commençant par 1999. Il y a une cohérence ici, la Cour suprême se répète, utilise les précédents relativement correctement, et voilà ce qu'elle juge, même si elle intervient point par point entre le service de musique en ligne et un consommateur individuel, la transmission d'œuvres musicales en continu, streaming, c'est moi qui ajoute ces mots, considérée en l'espèce, lorsqu'elle constitue une communication, ne peut être autre chose qu'une communication au public. Acte 3. Raising the ordinary to extraordinary. Cette dernière cause est probablement la plus troublante en termes d'exercice de qualification. On pourra après réfléchir si elle est justifiée, si elle peut être légitime dans l'économie générale du droit d'auteur actuel face aux nouvelles technologies, mais dans la technique juridique, elle est relativement problématique. La question est fort simple. Et elle peut être comprise également, c'est un autre acte de distribution électronique, c'est un autre acte de transmission électronique, mais cette fois, au lieu d'être un fil continu, on n'est pas plus dans un cas de transmission continue d'une œuvre, le streaming, on est dans le cas d'un téléchargement d'un jeu vidéo. Et là encore, il y avait la question de savoir, est-ce que, en déchargeant le jeu vidéo, puisque dans les jeux vidéo, il y a de la musique, est-ce que cet acte est une communication au public? Et si on répond par oui, alors la musique qui est dans les jeux vidéo, eh bien, eux aussi, ces musiques-là, sont communiquées au public, provoquant donc l'application d'un tarif. Le téléchargement, et c'est la question de fond, d'un jeu vidéo est-il un acte de communication au public par télécommunication? Même question, et la réponse n'est pas tout à fait la même. Voilà la réponse de la Cour suprême. In our view, there is no practical difference between buying a durable copy of the work in a store, receiving a copy in the mail, or downloading an identical copy using the internet. The internet is simply a technological taxi that delivers a durable copy of the same work to the end user. Le téléchargement, va juger la majorité ici de la Cour suprême, avec une dissidence importante de 4, le téléchargement d'un jeu vidéo n'est pas un acte de communication au public. Ce n'est pas une communication directe de l'œuvre. Et une des raisons qui est avancée, c'est finalement, lorsqu'on s'imagine encore la représentation en public, celle qui est ici devant vous, vous pouvez m'entendre, vous pouvez me voir de manière immédiate, simultanée à la délivrance de mon discours. Lorsque vous déchargez une copie d'un logiciel, vous n'entendez pas la musique, vous ne voyez pas les images, et on pourrait croire, le résultat est exactement le même que lorsque vous allez acheter un logiciel dans un magasin, dans une boutique, et vous achetez le disque lui-même. Alors la Cour dit, mais écoutez, c'est fantastique, parce que là en plus, on va pouvoir brancher une expression qui est bien à la mode, qui est la neutralité technologique. En réalité, si ce tour de passe-passe, ici, la création d'une copie par transmission, mais finalement, en oubliant qu'il y ait communication, finalement, tout se passe comme si vous aviez été au magasin d'à côté, c'est un effet de la neutralité technologique. C'est l'effet magique de la neutralité technologique, et donc le droit ne doit pas voir la transmission ici, mais ne voit que la conséquence de l'acte, c'est-à-dire la création d'une copie, comme si il y avait, vous avez été prendre et acheter une copie dans une boutique. Alors, ce problème a déjà une répercussion, la position de la Cour a déjà une répercussion importante, très importante, parce qu'il y a un lien entre la décision Rogers et cette décision-là. En réalité, je ne vous l'ai pas dit, je le gardais pour la fin, la décision Rogers fait référence à cette décision-là sur le téléchargement des logiciels. Et elle dit, ma décision dans Rogers, elle se comprend très bien, cette lignée de précédents est parfaite, on voit la trajectoire des causes qui s'alignent, uniquement quand vous êtes dans le cas d'un streaming, d'une transmission en continu. Quand vous êtes dans le cas d'une transmission en continu, vous avez véritablement un acte de communication publique par télécommunication. C'est ce que nous avait dit la Cour en 1999, et nous confirmons ici, plus de 10 ans plus tard, dans notre affaire Rogers. Mais, pour ce qui est des déchargements des fichiers musicaux, la même logique s'applique. Quand vous déchargez un fichier, vous ne l'entendez pas, vous ne l'écoutez pas. Cette rupture dans la simultanéité rompt également le lien logique avec l'application du droit de communication par télécommunication. Et de ce fait, la création d'un fichier musical dans votre ordinateur, c'est la même chose que si vous aviez été acheter un disque dans le commerce. Avec ce raisonnement qui déjà n'est pas juste enfermé dans l'affaire des logiciels, de la copie des logiciels, il est déjà sorti du sac. Il va déjà rejoindre les actes de transmission de fichiers musicaux par Internet. Alors, le droit de communication publique ne s'applique pas lorsque l'acte envisagé mimique un acte d'achat d'une copie physique. C'est la solution. La SOCAN n'a jamais pu recevoir de redevance pour la copie d'un jeu vidéo sur cartouche ou sur disque acheté en magasin. Il n'y a pas de droit de communication au public quand vous achetez une cartouche de jeu ou quand vous achetez un disque. Tout ça, c'est sous la province du droit de reproduction. Le droit de communication n'a rien à faire dans cette opération. La copie identique d'un jeu vendu et distribué sur Internet ne peut donner droit à une redevance que celle obtenue pour la reproduction de l'œuvre. Donc il n'y a qu'un seul droit en jeu, dit la Cour suprême, chaque fois que l'on imite un acte d'achat d'une copie d'un exemplaire physique. Un seul droit, c'est le droit de reproduction. Il suffit ce droit-là, dit la Cour suprême. Il suffit parce que, tant pour le logiciel que pour les logiciels ou les fichiers musicaux, en amont, les droits sont négociés à partir du droit de reproduction. L'éditeur va obtenir et négocier les droits de reproduction une première fois. Point. Et ensuite, c'est du domaine contractuel. Vous allez payer une partie pour le déchargement de l'œuvre, qui est vue également comme un acte de reproduction. L'épilogue, je ne peux pas vous dire à quel de plusieurs volumes de Fifty Shades of Grey, j'ai aucune idée. Some boy scout, he must have been to learn these nuts. ça devient un peu compliqué notre affaire. Le droit de communication fonctionne bien lorsque on a une simultanéité, on entend la voix, on a encore cette nostalgie de la représentation en public, et puis on avait cru à un moment donné qu'on s'était affranchi de la proximité, que vous et moi, on allait être dans la même salle, et finalement, si je parle au micro et que les autres m'entendent à côté, il y a une communication au public. On avait fait évoluer le droit de représentation, le droit d'exécution publique pour accueillir la technologie. La salle d'à côté, cette communication-là est une communication publique. Elle est simultanée, il ne me voit pas, il me voit sur caméra. Mais c'est une communication au public. Et puis, petit à petit, on a étendu la distance. Et puis, on est arrivé à ces formulations beaucoup plus modernes. Alors, le premier résultat auquel on arrive avec cette décision sur les logiciels, cette imitation de la réalité tangible, c'est qu'on vient de court-circuiter le droit de communication au public. On n'en a plus besoin, tout se fait par la reproduction, avec un effet dont on peut discuter, qui est une privatisation de l'économie des droits. Il y a aussi une importance, il y a une fracture systémique, puisque on distingue le cas de déchargement de la transmission continue. Dans le cas du déchargement, il n'y a qu'un acte de reproduction seulement. Le taxi technologique, on ne le voit pas, et Justice Rustin dira, il y a peut-être taxi, mais ça ne veut pas dire que la course est gratuite. Et il n'y a pas de communication au public par le transmetteur. C'est-à-dire qu'on a perdu un droit au passage. À savoir si c'est à l'économie des utilisateurs, ça c'est une autre histoire. Pour la transmission continue, on a toujours la communication au public depuis le serveur. L'œuvre siège sur un serveur et lorsqu'elle est enclenchée, lorsqu'on clique ou on la décharge, il y a communication publique. Et il y a peut-être une reproduction par l'utilisateur. L'effet pour lequel il n'y a aucun parallélisme, ça c'est la neutralité technologique. Ce n'est pas tout à fait ma conception de la neutralité technologique, où on voit plutôt que l'effet de la Cour est de créer des situations différentes, une discrimination de droit en fonction des différentes technologies utilisées. Alors, téléchargement assimilé à la distribution d'une copie, acte non soumis au droit d'auteur. Ce qui est intéressant, c'est qu'on revient en arrière en imitant la distribution tangible, le livre, on vient de supprimer plusieurs décennies d'évolution du droit d'auteur. On vient de tronquer, on vient d'oublier. On a fait une abnégation de développement sur le droit d'auteur. Puisque on revient et on essaye de calquer le traitement de la communication sur celui des tangibles. Car le droit d'auteur a toujours contenu dans sa logique quelque chose que certains présentent comme une exception, mais qui est une sinon une nécessité, mais un effet obligatoire, il y a un épuisement. L'on dit, le droit d'auteur s'épuise dans le monde des tangibles. Pourquoi ? Le droit d'auteur ne vise que la reproduction et l'acte de communication. Or, quand vous avez un livre entre les mains, si vous le prêtez à votre voisin, vous ne faites ni une communication, ni un acte de télécommunication au public. Cet acte-là, qui fait prévaloir votre propriété sur l'intangible, aux dépens ici du droit d'auteur, se comprend très bien, et c'est une conséquence de la coexistence de deux modes de propriété dans un exemplaire tangible. Ici, la Cour suprême nous dit, ben finalement, même si on est dans l'intangible, il faut revenir au tangible. En fait, le mécanisme de l'épuisement, le mécanisme qui avait permis auparavant de prêter le livre sans qu'il y ait enclenchement d'une rémunération, c'est le même ici, il faut par mimisme retrouver ce droit de distribution qui va s'épuiser. Le droit d'auteur ne s'occupait pas, ne s'est jamais véritablement occupé, sauf par de manière sporadique, de la distribution des copies physiques. Ce qui nous mène ici à quelque chose d'encore plus troublant. En réalité, il y a peut-être un mouvement général. À savoir si c'est une bonne chose, une mauvaise chose, ce sera à vous de juger, mais il y a un mouvement global parce que on voit de plus en plus une analogie, le monde virtuel imiter le monde physique. Ce n'est pas une évolution, ça peut être vu comme une évolution, mais c'est une véritable rétrogradation du système de pensée. Et il y a une affaire par laquelle je vais conclure, qui est l'affaire Usenet en Europe, qui a créé beaucoup d'émoi dans la communauté des logiciels. Il s'agissait de Adobe. Adobe vend des licences pour des logiciels, des licences d'utilisateurs, où vous pouvez avoir des licences pour 10, 15 ou 20 postes. Imaginons que vous êtes un de ces clients-là et vous n'avez plus besoin de votre licence Adobe, qui n'a d'ailleurs pas de limite de temps, et vous décidez, et vous avez trouvé un preneur, pour reprendre vos licences. Un marché secondaire de licences. Adobe va utiliser son droit d'auteur. Mais écoutez, moi je suis propriétaire du logiciel, je vous ai donné une licence. Ce que vous faites ici, en remettant sur le marché, est un acte qui contrevient au droit d'auteur, qui contrevient à mon droit. Et la Cour, à la surprise de nombreux, a ramené, a importé ce vieux principe du monde tangible, qui est le principe de l'épuisement, celui-là même qui expliquait pourquoi vous pouvez prêter votre livre à votre voisin. On dit que le droit d'auteur s'épuise, c'est tout simplement qu'il ne s'applique pas dans l'opération de prêter votre livre. Si vous prêtez votre livre, vous ne faites pas un acte qui est soumis au droit d'auteur. Mais la Cour de justice européenne va beaucoup plus loin. Whether the copyright holder concludes with a customer in return for payment of a fee, a license agreement granting the customer the right to use that copy for an unlimited period. Imaginez que vous avez acquis les droits pour une durée illimitée d'utiliser ce logiciel. That right holder sells the copy to the customer and thus exhausts his exclusive distribution right. La Cour de justice européenne revoit, réinterprète le contrat de licence, le droit que vous avez utilisé pour utiliser un logiciel, comme une vente. En réalité, ce que fait Adobe, c'est ne pas vous licencier, ne pas vous donner juste une ficelle du droit, mais il vous vend directement le logiciel. It said that such a transaction involves the transfer of right of ownership of the copy. Therefore, even if the license agreement prohibits a further transfer, the right holder can no longer oppose the resale of that copy. Le droit de licence, et vous en signez des licences tous les jours, est reconsidéré par la Cour comme une vente. Avec cette vente, vous vous retrouvez dans une situation similaire à l'acquéreur du livre. Et l'acquéreur du livre est capable de redonner, de revendre lui-même cette copie. Alors on trouve dans les décisions européennes et on trouve dans les décisions donc de la Cour suprême quelque chose qui est dans l'air du temps. Quelque chose qui est une recherche d'un nouveau mécanisme, peut-être une mini-contre-révolution du droit d'auteur où on avait trouvé trop de droits, il y avait trop de droits compliqués que l'on cherchait sans arrêt à moderniser. On avait soumis, et j'avais soutenu il y a fort longtemps, l'idée que les droits de communication, les droits de reproduction et d'autres satellites du droit auraient dû être remplacés par des droits uniques. Un droit, par exemple, de distribution électronique. Si la tendance se maintient, ce que l'on peut conclure aujourd'hui, c'est l'impossibilité de poursuivre les donneurs d'accès aux fichiers, surtout si la reproduction est faite hors Canada. On a supprimé le droit de communication au public par télécommunication dans le cas d'un déchargement de fichiers qui est capable d'imiter encore une fois la vente de la copie. également risque de transformer la licence de reproduire en une vente pure et simple, et de réintégrer ce que l'on avait considéré un effet de la tangibilité des supports, de le réintégrer dans l'économie du virtuel. Il y a un problème. Il y a un problème parce que ces décisions-là ont été rendues en juin de l'année dernière. Depuis, il y a la mise en œuvre du projet C11, de la loi C11, qui vient moderniser notre loi sur le droit d'auteur et qui a apporté, tel que je vous l'ai montré, une modernisation du droit de communication au public. Le droit de communication au public contient désormais un ajout, une précision, qu'il y a communication lorsqu'il y a mise à disposition. Or, dans l'affaire des logiciels, comme dans l'affaire des téléchargements de fichiers, la Cour suprême vient juste de dire il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication. Pourtant, les œuvres étaient bien mises à disposition, tant pour les fichiers musicaux que pour le jeu vidéo qui était disponible en ligne. La Cour suprême a dit non, non. Il ne faut pas voir cette mise à disposition comme une communication. La loi, le texte de la loi vient d'être changé. Alors, quel va être l'effet de ces décisions de la Cour suprême au regard des nouvelles dispositions législatives? Je suppose qu'il va falloir attendre les prochains développements jurisprudentiels. Je vous remercie.
I know we're almost out of time, but I would like to give the audience a chance to ask our panel a few questions, since we haven't. I'm sorry. I know we had one question. Yes, you can write your questions, or in the interest of time, you can just raise your hand and say them out loud, and I'll repeat them for the benefit of everybody. And for the benefit of the other room, where it will be a transmission communication to the public. Maybe I'll just start. I want to know why my colleague is reading 50 Shades of Grey. Is there a hand? That's where? I'm sorry. Okay, go ahead, please.
J'ai effectivement amené les étudiants de McGill à écouter, être à l'audience de la décision, l'audience de l'affaire Robinson contre Sina. Je ne sais pas si c'est le forum et le moment de faire des pronostics sur cette affaire-là. Il va certainement y avoir des questions sur les dommages. Il y avait plusieurs questions sur les dommages exemplaires, punitifs, dommages de responsabilité extra-contractuelle. Ça va être de la pure spéculation, ce que je pourrais dire ici. Il va falloir attendre la décision, malheureusement.
Yes, go ahead, please.
How will C11 affect sites like Napster?
So the question is, how will law C11 affect sites like Napster?
Well, the only change, as you've seen, which is a major one, which is the making available, which has always been an element of defense, by saying, well, I'm just a host. I'm not communicating anything. And because the reproduction has always been problematic, it has
It's been problematic for two reasons. Once, it's very difficult to recognize an illegal from a legal copy. There's no signature, but some work do have a signature, but the cost in terms of evidence and expertise to show that what you have reproduced on your server are actually illegal copies is problematic. Two, those hosts, those servers, are usually they do not control the acts that are made and all the activities that are conducted by users. And three, if the reproduction is the only way to find infringement, most of the time those servers are outside Canada. So there's an extra territoriality element that prevents the infringement action to unfold. The only right that really we had, that we thought we had, was the communication to the public. That was a point of a contention in a 2004 Supreme Court decision, where there was a debate about, well, how do you apply, is how national should be the communication to trigger action in Canada. So there is a nice discussion on if the communication has been initiated from abroad, is it and received in Canada, is it still a communication to the public? And the Supreme Court said yes, even if there is an element of extraterritoriality, it will be communication to the public. But now it's all put sort of in jeopardy because another element that we used, that providers used, or host used as a defense, that they would say, well, I do not communicate myself. Those works are sitting here. This is why the making available broadened the scope of the communication to the public. But now, whether C11 would be effective or be slightly changed in its application because of the Supreme Court decision of 2012, difficult to say. In my opinion, some of the Supreme Court decision will not hold under the new making available standard, but that I'm not sure how it will be.
There's another aspect to the answer too, in addition to what Professor Ruiz has said. There's the question of what our American friends call secondary liability, so whether Napster, sites like Napster, or software like the Napster software, or BitTorrent software, or other kinds of software, or indeed internet service providers like Bell, the people Bell and Rogers, the companies we love to hate, are liable in some way as being the conduits or the providers of the technology, the providers of the software that allow them to do it. So there are two aspects here. One is formal legislation. So in Canada, we now have a notice scheme. The United States, as was mentioned, has a notice and takedown scheme, which provides a safe haven to internet service providers and to some extent websites like potential file sharing websites. Napster's dead, but there are other ones out there. If we keep track of the records, we give notice to someone that a copyright infringement has happened and we keep a record of it, they won't be liable if they can fall into that safe haven. In the United States, they won't be liable if once they get notice, they take down. There's also a question of the standard of liability. And in Canada, it's the authorization standard that I mentioned. So is this company actually authorizing infringement? And it's a hard standard to meet. In the United States, they use a tort standard. They use contributory infringement. Are these websites, and this is what Napster was taken to court on, this is what Grokster was taken to court on, this is what Sony Betamax was taken to court on years ago on video recording at home, are they contributing to infringement on a tort standard in the United States? And there, in the latest case, Grokster, There was the argument made in Sony Betamax that if there was a non-infringing use, a legitimate non-infringing use, then the company would be fine, provided the software. Grokster was found that they were inducing infringement based on trying to advertise to get Napster's old customers. What's going to happen in the future? Look at BitTorrent, multiple sites. BitTorrent has a big argument, counter-argument on legitimate use in the sense that it was developed for legitimate purposes, sharing, file sharing in the open source computing community. While the vast majority of what goes on BitTorrent now is not that, it'd be pretty hard pressed, in addition to catching any one server in any one place because the files are diffused, it would be pretty hard to make that argument stick. So it will be tough. Be tough to get the software providers. Might be less tough to get the internet service providers should they slip up and become something less than conduits.
I have just one tiny question to ask the panelists, and maybe they could give me a very, very short answer each because we really are running out of time. Professor Lametti called the five cases a pentology. So I guess my question is it just the fact that five cases dealing with copyright law were rendered by the Supreme Court at the same time, or is there some unifying theme to the five cases? Can they live together? Is there some common thread we can pull through the five cases, or are they just disparate five cases that happen to have been decided at the same time on a similar theme? Maybe just a quick response. To see what you think of that.
I'm not sure anything runs through all five. You can have subgroups, fair dealing in a couple, technological neutrality in a couple, communication to the public. They are there, even though they don't necessarily hang together, right, as Professor Moise has pointed out. Subgroups, I think. I'm not sure that all five can hang together, but others might differ.
Well, I think the access copyright is really in continuity with CCH and Belge, and the others stand more on their own in terms of principle of technological neutrality.
It's going to take some time to unfold and digest those five as bulk of jurisprudential production, but you have a sense that the ice is melting under the feet of right holders. You can see it. There's global warming for right holders. And I always thought that Justice Rustin was a sort of a hardliner, and the fact that he's sitting in dissidence in one of the cases is a bit troubling for me. So I'm not too sure what to make of it yet. But we will see. But it's definitely, 15 years ago we said that the pendulum was tilting and it was time to acknowledge the other side, the user's rights. My guess is that we reached pretty much the tip of the other side, and slowly the pendulum will come back. That's my take on this.
Well, with that, I'd like to thank our three panelists, the President Lamarel and the audience. Just to tell you that in 1 month's time, exactly on March 19th, we'll have our final Formation Continue series of this year, and it will be on the NS case of the Supreme Court of Canada on the right of a woman to wear a niqab while testifying in court. So hope to see you then to finish off our year. Thank you.